La première,
9h-10h,
l'histoire continue,
Bertrand N., Hélène Maquet.
Ah oui, je suis coupable. Je suis coupable, il faut que je paie.
Pour travailler contre le fléau du terrorisme, tout le monde a une responsabilité, une tâche sur ce plan.
C'est quand même une position juridique, politique, morale, intellectuelle, vraiment forte, vraiment grave.
Quand on raconte l'histoire d'une personne dans cette émission, c'est souvent parce que son parcours dit quelque chose du monde, de la société, de la Belgique.
Le parcours de Nizar Trabelsi raconte, lui, deux choses différentes sur notre pays.
D'abord, comment on a découvert que la Belgique était une base arrière du terrorisme islamiste international au début des années 2000.
Et puis l'histoire de Nizar Trabelsi raconte aussi comment notre gouvernement a fait extrader un homme vers les États-Unis en bafouant toute une série de décisions de justice.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Histoire continue.
Nous retraçons donc la vie de Nizar Trabelsi. Aujourd'hui, son nom doit encore vous évoquer quelque chose. Ce Tunisien avait été arrêté deux jours après les attentats du 11 septembre en Belgique parce qu'il planifiait de perpétrer un attentat contre la base de l'OTAN à Kleinebrogue.
Nizar Trabelsi a été condamné à purger une peine de 10 ans de prison. Puis, il a été extradé aux États-Unis en 2013. Depuis lors, il vit dans une prison sous haute surveillance où il se dit victime d'actes de torture et où il n'a toujours pas été condamné. Il n'y a pas eu de procès aux États-Unis.
Pour la justice belge comme pour la justice internationale, il y a là un déni de justice. Alors, comment en est-on arrivé là? C'est ce que nous allons tenter de comprendre dans cette émission. Pour cela, vous allez voir que ça vaut vraiment la peine de se replonger aux racines de cette histoire et d'en dérouler le fil qui reste encore très tendu aujourd'hui.
Et ça vaut la peine de réentendre comment, après le choc du 11 septembre, la fièvre de la lutte contre le terrorisme s'était emparée du monde entier et même des gouvernements.
Pour en parler avec nous deux invités, Dounia Alamat, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes une des avocates de Nizar Trabelsi.
Et Baudouin Loz, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au quotidien et le soir et vous avez suivi cette affaire Trabelsi.
Alors on pose souvent la question à nos invités. Dounia Alamat, selon vous, pourquoi est-ce que ça vaut la peine aujourd'hui de ressortir cette affaire Trabelsi, de raconter cette histoire de Nizar Trabelsi?
Mais vous l'avez dit, l'histoire de Nizar Trabelsi, elle a commencé dans cette guerre contre le terrorisme après les attentats de 2001. Et elle vaut toujours la peine d'être racontée. Il faut toujours s'intéresser à ce dossier parce qu'il n'est toujours pas terminé et que l'État belge continue à commettre des illégalités envers cette personne qui viole gravement ses droits fondamentaux.
Baudouin Loz.
Oui, c'est une histoire assez incroyable quand on y pense. Donc c'est un terroriste qui avait été arrêté avant qu'il puisse réaliser son attentat, qui a purgé la peine à laquelle il avait été condamné par la justice belge, 10 ans. Puis il a fait 2 ans d'écrou extraditionnel en attendant la décision sur son extradition. Et finalement, il était extradé alors que, selon la justice belge, ce n'était pas légal. Et il se retrouve depuis une dizaine d'années maintenant, 9 ans et quelques, dans une situation dramatique, dans une prison aux États-Unis. Tout ça dans un contexte évidemment de vengeance des États contre un terrorisme islamiste qui avait été particulièrement sanglant. On peut comprendre d'une certaine façon cette vengeance, mais néanmoins ici, ça dépasse quand même l'entendement.
Allez, on se replonge dans nos archives. On est donc en septembre 2001.
Au numéro 3 de l'avenue Mozart à Uccle, un immeuble de briques sans charme fait le coin. La rue, bordée de maisons construites dans les années 60, grimpe plus loin, jusqu'à l'altitude 100, point culminant de Bruxelles. Dans ce quartier paisible, les habitants sont encore sous le coup de cette puissante onde de choc qui a secoué le monde 2 jours plus tôt.
Bonjour à tous, ce flash spécial pour vous annoncer ces très spectaculaires explosions. Ce serait un attentat selon les médias américains.
We believe that a plane has crashed into the World Trade Center.
Obviously a major fire there and there has been some sort of explosion.
Tim, just a few moments ago, something believed to be a plane crashed into the South Tower. Of the World Trade Center.
Nous sommes le 13 septembre 2001. Personne ne sait encore qu'en quelques secondes, les remous du monde vont venir s'immiscer jusque dans ce recoin de Bruxelles.
Là, il est arrivé une voiture de police Il y a six hommes avec gilets pare-balles qui sont sortis. Notamment, ils ont barré la rue là-devant et ils sont rentrés dans la maison ici à côté.
Les policiers grimpent l'escalier en granito, éclat noir sur fond blanc, qui mène jusqu'au quatrième et dernier étage. Là, ils enfoncent la porte. L'homme qu'ils recherchent s'appelle Nizar Trabelsi. Il s'est installé là récemment. D'ailleurs, personne dans l'immeuble ne le connaît.
Non, je ne le connaissais pas du tout. Il y a peu de contact, je dirais, entre locataires dans l'immeuble, à part quelques personnes qui sont là déjà depuis quelques années, mais je ne le connaissais pas.
Un homme discret, un grand type au crâne rasé et au look mi-boxeur, mi-rappeur qui ne cessait de voyager entre la France, la Belgique et les Pays-Bas. Dans l'appartement, les policiers découvrent des armes et des faux papiers. Tout porte à croire que Nizar Trabelsi a bien l'intention de mener une attaque. Mais où ? Mystère. Pour comprendre qui est ce Nizar Trabelsi que les Belges vont devoir apprendre à connaître, un de ses tout premiers terroristes arrêtés en Belgique en lien avec le djihadisme et le terrorisme international, pour comprendre qui il est, il faut retracer son drôle de parcours. Nizar Trabelsi naît en 1970 dans les quartiers populaires de Sfax en Tunisie. Fils d'ouvrier, il n'a qu'une passion, le foot. Et il a de l'or dans les pieds, à tel point qu'il est sélectionné dans l'équipe nationale junior. Alors en 1989, poussé par un oncle installé en Allemagne, à Düsseldorf, il se laisse aspirer par la grande aventure du football européen. On parle d'abord de Liège et du Standard, mais le deal ne se fait pas. Nizar Trabelsi finit par se retrouver à Düsseldorf, ville de son oncle, le Fortuna Düsseldorf qui vient de remporter le championnat de Bundesliga 2, la deuxième division, l'engage comme amateur sous contrat. L'entraîneur Manfred Müller pense bien avoir eu un gros coup de chance en tombant sur ce jeune attaquant tunisien. Cette saison-là pourtant, Nizar Trabelsi n'a pas joué du tout, pas une minute. De cette période où l'espoir brûle encore, il reste une photo officielle. Le maillot blanc flanqué de l'insigne rouge du Fortuna et du logo noir de la marque Puma, les bras croisés derrière le dos, les gradins du stade dans le flou à l'arrière-plan, Nizar Trabelsi, moustache et cheveux coupés nets, regarde l'objectif, prêt à mordre dans l'avenir. Pourtant, c'est à partir de là que va s'amorcer la descente aux enfers. De soirées coquées en petit trafic, de vol à la tire en boîte de nuit, Nizar Trabelsi bascule dans une petite délinquance qui lui ferme les portes du foot. Comment il s'est radicalisé ? Comment il est arrivé dans cet appartement de l'avenue Mozart ? Comment il s'est préparé à commettre un attentat ? Il faudra des années pour le comprendre. Toujours est-il que fin août 2001, la sûreté de l'État belge apprend qu'un individu se trouve sur son territoire, un Tunisien du nom de Nizar Trabelsi qui pourrait vouloir agir vite. Les attentats du 11 septembre précipitent l'enquête.
4 personnes ont été arrêtées chez nous. Des armes auraient été retrouvées en leur possession. Pour l'instant, la police n'écarte pas l'idée qu'un lien puisse exister entre ces arrestations et les responsables des attaques de mardi.
2 jours plus tard, un snack égyptien installé depuis 2 mois sur le boulevard Le Monnier dans le centre de Bruxelles est perquisitionné.
100 kilos de soufre et 50 kilos d'acétone, voilà ce que les enquêteurs ont retrouvé dans la cour arrière du restaurant. Ces produits entrent dans la composition d'explosifs bien connus, puisqu'ils ont déjà été utilisés dans les attentats contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie il y a 4 ans. 2 personnes ont dès lors été placées sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction Michel de Valkener. Ces 2 arrestations sont liées à celles qui ont eu lieu il y a 1 semaine, puisque l'un d'eux est le frère d'un des 2 suspects interpellés il y a 1 semaine, Abdelkrim El Hadouti. En outre, le soufre et l'acétone étaient mentionnés sur les formules chimiques retrouvées chez l'autre personne interpellée la semaine passée à Uccle, Nizar Trabelsi.
En tout, Nizar Trabelsi a été arrêté avec 3 autres personnes. Ils ont donc des armes, des faux papiers, des produits chimiques et des formules qui permettent de les utiliser comme explosifs. Mais pour faire quoi ? Pour les enquêteurs belges, une piste semble se dégager.
Ce sont en tout cas les intérêts américains qui étaient visés.
On parle notamment de l'ambassade américaine à Paris.
On en parle, mais rien ne me permet actuellement de le confirmer officiellement. Je pense que très prochainement, les éléments de l'enquête permettront de le confirmer ou de l'infirmer.
l'ambassade américaine à Paris. Pendant plus d'un an, ce sera la version la plus plausible. Jusqu'à un drôle de rebondissement en novembre 2002.
Bonsoir à tous, un document exclusif pour ouvrir ce journal. Nizar Trabelsi, l'un des terroristes présumés arrêtés chez nous au lendemain du 11 septembre, avoue qu'il préparait bien un attentat suicide en Belgique.
Non seulement il l'avoue, mais il l'avoue directement à une journaliste de la RTBF, Radia Sadani, par téléphone depuis la prison de Forêt où il se trouve.
Ah oui, je suis coupable. Je suis coupable, il faut que je paie, ça c'est clair. Ce que j'avais l'intention de faire, ça c'est pas une chose de bien, ça c'est clair. Mais croyez-moi, je n'avais pas de choix.
Et sa cible n'était pas l'ambassade américaine à Paris, elle se trouvait sur le sol belge.
C'est pas logique que j'achète les produits ici et je transporte les produits ici jusqu'à Paris pour faire un attentat là-bas. Ou moi-même, je ne savais même pas où se trouve cette ambassade.
Oui, donc c'était bien la Belgique qui était visée.
Oui.
C'est-à-dire Klein Brogel.
Oui, exactement.
Klein Brogel dans le Limbourg est une base militaire de l'OTAN dans laquelle sont réputées se trouver des ogives nucléaires américaines. L'attentat devait avoir lieu au printemps 2002. Cette interview donnée depuis la prison de Forêt, va permettre de mieux comprendre ce personnage de Nizar Trabelsi, ce footballeur tombé dans la petite délinquance qui va se convertir à l'islam puis se radicaliser. Jusqu'à se retrouver dans les camps d'entraînement d'Al-Qaïda en Afghanistan, où il rencontre Oussama Ben Laden.
Et votre relation avec Ben Laden, c'était comment ?
C'était la vérité.
Mm-hmm. Oui.
Je l'aime beaucoup comme mon père. Pour moi, c'est mon père, croyez-moi. Je m'en fous, croyez-moi, de l'an septembre, de ce qu'il a fait, tout ça, ça ne m'intéresse pas. C'était quelqu'un que j'avais une bonne relation avec lui. J'ai parlé beaucoup avec lui. Et j'ai senti qu'il ne joue pas avec moi. J'ai senti qu'il m'a aidé, il m'a donné des conseils.
C'est à Kandahar, auprès d'Oussama Ben Laden, que Nizar Trabelsi va décider de passer à l'action, de mener un attentat contre les intérêts américains, ce jour-là. Au téléphone, il raconte comment la colère et la haine se sont installées en lui.
J'étais à Kandahar et j'ai vu une photo d'une petite fille à l'âge de 4 mois. Elle était tuée dans les bras de sa mère avec une balle dans l'abdomen. J'ai pleuré, j'avais des films dans ma tête. Et puis, j'ai reçu une cassette vidéo où il y a des tortures sur des femmes. J'ai pleuré beaucoup, je suis devenu fatigué. J'ai pris ma décision que je n'ai pas envie de vivre avec ça, non.
Vous avez pris votre décision en Afghanistan ?
Oui, direct.
Cette cassette vidéo, elle a été fournie par qui ?
À Kandahar.
Par des gens proches d'Oussama Ben Laden ?
Oui, il y a là-bas pour les enregistrements des cassettes vidéo, tout ça. Mm-hmm.
En entendant cette interview, au cabinet du ministre de la Justice, Mark Verwilgen, on est estomaqué, furieux même. Comment une journaliste a-t-elle pu recueillir ses aveux ? Le ministre ne mâche pas ses mots.
La journaliste en question a quand même pu avoir des contacts, plusieurs contacts, avec Trabelsi. Elle devait également savoir qu'il y a quand même des règles à respecter. Et c'est le reproche que je lui fais. Elle savait qu'elle n'a pas parlé à pas n'importe qui, elle parlait à un terroriste. Et vous savez que depuis l'attentat du 11 septembre 2002, le monde entier essaye de se forcer pour travailler contre le fléau du terrorisme. Tout le monde a une responsabilité, une tâche sur ce point.
Avec le recul, ce sont ces derniers mots qui marquent. Peut-être plus que les questions de déontologie journalistique que le ministre de la Justice tente, en vain et à tort, de mettre dans la balance. Depuis le 11 septembre, dit le ministre, le monde entier se force à travailler contre le fléau du terrorisme. Tout le monde a une tâche sur ce point. Comme si la fin justifiait les moyens. Et quand Nizar Trabelsi avoue qu'il voulait s'en prendre à la base nucléaire de Klein Brogel, il admet qu'il voulait s'en prendre aux intérêts américains. Mais il y a une chose qu'il n'a pas dite, qu'il n'a pas avouée. Des années plus tard, celle qui est devenue sa femme, Oum Mariam, a expliqué ceci.
Qu'est-ce qu'il n'a jamais livré ?
Les deux militaires américains qui ont fourni le plan de la base de Klein Brogel. Donc il a obtenu ce plan, il a payé $50,000 pour les avoir. À deux militaires américains. Est-ce qu'ils travaillent encore, sont encore en fonction, etc. J'en sais rien.
En septembre 2003, Nizar Trabelsi a été condamné à 10 ans de prison en Belgique pour cet attentat qu'il planifiait de commettre sur la base de Klein Brogel.
La première,
l'histoire continue.
Hélène Maquet, Bertrand Haine.
Alors, nous en sommes donc là dans cette histoire. Nizar Trabelsi a été condamné. Il va purger sa peine de prison. On n'en a pas parlé, mais il a été jugé avec d'autres personnes dans un grand procès terrorisme. Avant d'aller plus loin et d'aborder la deuxième partie de cette histoire, Dounia Alamat, vous êtes donc son avocate. Nizar Trabelsi, c'est quel genre de personne ?
Nous avons rencontré avec Maître Marchand à une seule reprise en 2012, à la prison de Bruges, quand il était encore en Belgique. Et c'est vrai que moi, j'avais un peu d'appréhension d'aller rencontrer une personne qui avait ce pédigré, on va dire. Et qu'en réalité, on a rencontré quelqu'un qui était calme, qui était dans une réelle souffrance par rapport aux conditions de détention qu'il vivait déjà ici en Belgique depuis 10 ans. C'est-à-dire qu'il était à l'isolement, ses contacts sociaux étaient extrêmement restreints, ce qui avait évidemment des implications sur sa santé physique, des ulcères, des maux de tête, toute une série de problèmes de santé. Et c'était une personne qui avait terriblement peur. C'était une personne qui avait terriblement peur d'être extradée vers les États-Unis. Mais ce qu'on entend dans le reportage qu'on vient d'entendre, c'est quand même une personne, par rapport à sa personnalité, c'était pas un leader, Nizar Trabelsi.
Très influençable comme ça.
Il était très influençable et il y a de multiples rapports psychiatriques, psychologiques qui disent qu'en fait, il a été manipulé, il a été radicalisé. Évidemment, il a eu le tort de se laisser aller vers ce penchant. Mais quand on l'entend parler des vidéos qu'on lui a montrées et qui l'ont radicalisé et qui l'ont amené à tenter de commettre un attentat, on voit tout de suite que c'est pas un leader et que c'est pas cet ennemi numéro un qu'on a voulu nous vendre. Et pendant ces 10 années, ces 12 années de détention en Belgique, c'est vraiment une personne qui avait fait un travail sur lui-même, qui est passé aux aveux,
qui avait rencontré une femme,
qui avait décidé, et c'est ça la déradicalisation, c'est finalement changer son optique de vie et s'orienter vers autre chose. Et il était vraiment dans ce chemin-là.
Qui regrettait sa radicalisation de l'époque.
Tout à fait. Il regrettait le fait d'avoir risqué de toucher des civils et des gens qui n'étaient pas responsables. Oui, il avait émis des regrets.
Baudouin Loos, vous êtes journaliste au Soir. On entend aussi en filigrane dans le récit ce contexte. On est 2 jours après le 11 septembre. C'est pas n'importe quel moment non plus.
Non, non, c'est pour ça que les choses ont si mal tourné pour lui. Évidemment, l'émotion était mondiale, particulièrement en Occident, évidemment surtout aux États-Unis. La suite allait d'ailleurs bien le démontrer. Et c'est vrai que c'est un individu qui, visiblement, est quand même très naïf. J'en veux pour preuve le fait qu'il a avoué Kleinbrogel, ça veut dire que lui-même s'impliquait...
Ne comprend pas les enjeux, en fait.
Non, mais je veux dire, lui-même s'implique par rapport aux États-Unis. Donc il ne comprend pas, parce que personne ne savait qu'il avait un plan contre cette base belgo-américaine, si je puis dire. Et s'il ne l'avait pas dit, on ne l'aurait peut-être jamais découvert, et donc les Américains ne l'auraient pas recherché. Donc c'est dire sa grande naïveté.
C'est une bourde, en fait, quelque part, de communication, cette interview à la RTBF. Et en même temps, ça a permis aussi de découvrir qui était Nizar Trabelsi.
Il a voulu dire la vérité.
Voilà, il a dit la vérité.
Ouais. Et ça s'est retourné contre lui, alors qu'il a, finalement, il avait quand même déjà purgé au total en Belgique 12 années, quoi.
Ouais. L'histoire de Nizar Trabelsi pourrait s'arrêter là. Elle va pourtant rebondir 10 ans plus tard.
Oui, nous sommes le 3 octobre 2013. Nizar Trabelsi a terminé sa peine en Belgique. Il reste en prison parce que les autorités américaines demandent son extradition depuis 2007. Mais il n'est pas trop inquiet parce que la Cour européenne des droits de l'homme vient d'interdire à la Belgique de l'extrader vers les États-Unis. Alors ce matin-là, quand on vient le chercher dans sa cellule de prison à Bruges, il entrevoit plutôt une bonne nouvelle. Il pense qu'on va le transférer vers la prison d'Ittre en vue de son mariage avec Oumariam, qu'il a rencontré quelques années plus tôt depuis la prison. Il rentre dans la voiture de police, comme toujours lors de ses transferts. Il a les yeux bandés pour qu'il ne puisse rien voir. Il porte un casque sur la tête pour qu'il ne puisse rien entendre. Ce n'est qu'en sortant de la voiture, ce n'est qu'à l'odeur, qu'il se rend compte qu'il est en fait à l'aéroport, où on le met dans un avion, direction les États-Unis, pour sa future épouse. C'est tout à fait inattendu.
On est ensemble hier. Hier, il n'y avait rien qui laissait supposer qu'il allait être mis dans un avion ce matin. Donc voilà, c'est une visite comme d'habitude, normale. Quoi.
En réalité, tout s'est précipité le matin même au Conseil des ministres, devant lequel se trouve en direct notre collègue Rachel Crivellaro.
Effectivement, je peux vous confirmer que c'est bien d'ici, du Lambermont, qu'est parti le feu vert définitif à l'extradition de Nezar Trabelsi. Mais en réalité, cela fait plusieurs jours que la ministre de la Justice, Annemie Turtelbaum, rencontre très discrètement les autres vice-premiers ministres, des entretiens au cours desquels elle leur a fait part de la possibilité de pouvoir enfin extrader Nezar Trabelsi, de l'existence d'une fenêtre d'opportunité, d'une part parce qu'il y a cet arrêt du Conseil d'État du 27 septembre dernier qui lève toutes les interdictions juridiques à l'extradition. Et puis Annemie Turtelbaum a mis également un petit peu la pression. Elle a aussi insisté sur le caractère d'urgence. En fait, Nezar Trabelsi avait terminé de purger sa peine depuis maintenant plus d'un an. S'il était toujours en prison, c'était en vue de cette extradition. Et pendant ce temps, lui, il essayait par tous les moyens de trouver un système pour rester en Belgique. C'est le sens à donner, par exemple, à sa demande de pouvoir épouser une Belge et de demander ensuite un permis de séjour.
Le Conseil des ministres, le gouvernement, a donc autorisé l'extradition alors que tous les recours juridiques déposés par ses avocats n'ont pas été épuisés. Mais pour la ministre fédérale de la Justice, Annemie Turtelbaum, les Américains ont donné toutes les garanties.
La garantie de la part des autorités des États-Unis que cette affaire sera jugée seulement par un tribunal de droit commun et non par un tribunal militaire ou un tribunal d'exception, et qu'il ne peut pas être condamné à la peine de mort.
Les avocats de Nezar Trabelsi craignent que leur client ne soit torturé dans les prisons américaines. C'est pour cela que la Cour européenne des droits de l'homme a suspendu l'extradition sur base de la Convention européenne des droits de l'homme. Françoise Tulkens, qui a été juge à la Cour européenne des droits de l'homme, ce jour-là n'en revient pas.
Quand un pays comme le nôtre, qui a joué un grand rôle dans la Convention, la viole, je dirais un peu volontairement, enfin volontairement en sachant bien que c'est contre cette disposition, c'est quand même une position juridique, politique, morale, intellectuelle vraiment forte, vraiment grave.
Baudouin Lausse, vous êtes journaliste au soir, vous suivez les évolutions de cette affaire Trabelsi. Au moment où il est extradé, on est donc le 3 octobre 2013, personne ne s'y attend vraiment, ça surprend tout le monde.
Oui, parce que, évidemment, comme le disait votre reportage, on pensait que les choses allaient se passer dans l'ordre, c'est-à-dire qu'on épuise d'abord les recours, ceux lancés par ses avocats. Et là, tout d'un coup, il y a un court-circuit et on le met dans un avion. Et donc, évidemment, la surprise était la plus totale. Et c'est pas étonnant qu'une personne aussi compétente que Françoise Tulkens a pu à ce moment-là dire mais comment se fait-il que l'État belge, le gouvernement belge en tout cas, viole sciemment l'État de droit?
Comment se fait-il? Pression des États-Unis?
Évidemment, il n'y a pas du tout d'autre explication.
On va rester quand même sur ce moment de l'extradition. Il y a un recours qui est déposé pour essayer que l'avion fasse demi-tour.
L'avocat de l'époque, Nezar Trabelsi, a introduit ce qu'on appelle une requête unilatérale auprès du tribunal de première instance. Il a bien entendu obtenu gain de cause, mais c'était trop tard parce qu'il était déjà Nezar Trabelsi dans l'avion. Mais je voudrais quand même insister sur le fait que toute la communauté juridique était véritablement choquée par cette décision qui est une décision politique tout à fait illicite. La jurisprudence est très claire. Quand il y a une mesure provisoire de la Cour européenne qui dit attendez, on doit attendre. Et toutes les explications...
Et la décision de la Cour européenne des droits de l'homme, puisque c'était une suspension de l'extradition, elle devait arriver combien de temps après?
C'est ça qui est aussi choquant. C'est vraiment de l'hypocrisie de la part du gouvernement de l'époque de dire ça allait durer encore longtemps. Pas du tout. La Cour européenne avait dit j'attends l'arrêt du Conseil d'État. Une fois qu'il est rendu, elle a dit dans un mois, je rends ma décision. Et la détention de Nezar Trabelsi venait d'être confirmée. Donc il n'avait aucune chance d'être libéré avant l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. Et on savait qu'elle allait intervenir dans un délai extrêmement court. C'est juste une décision politique contraire au droit.
Donc on a profiter en fait d'une fenêtre pour l'extrader avant la décision finale de la Cour européenne des droits de l'homme. Enfin, c'est ça qu'on peut supposer.
Oui, mais moi je considère qu'il n'y avait pas de fenêtre et l'État belge savait qu'il n'y avait pas de fenêtre. On est tenu ici en Belgique par les mesures provisoires ordonnées par la Cour.
Et quoi, l'État belge alors craignait de risquer une décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui aurait été en faveur de Nezar Trabelsi et qui aurait encore un petit peu plus verrouillé les possibilités d'extrader?
C'est-à-dire qu'il est clairement plus compliqué pour un gouvernement de violer un arrêt définitif de la Cour que de violer une mesure provisoire.
Pourquoi est-ce que la Belgique le fait, selon vous?
plus on travaille sur ce dossier, plus on apprend des choses vraiment étranges. Et je pense que on a encore beaucoup de choses à apprendre sur ce qui s'est passé, mais il y a eu un accord politique dès le départ de vouloir extrader Nizar Trabelsi en sachant que il risquait et il allait être poursuivi aux États-Unis pour les mêmes faits que ceux pour lesquels il avait été condamné en Belgique.
Alors ça, on va y venir après, mais vous dites dès le départ. Ça veut dire quand ? Puisque là, on est en 2013, au moment où il est extradé. Pour vous, à partir de quand est-ce qu'il y a un accord entre la Belgique et les États-Unis pour l'extradition de Nizar Trabelsi ?
Mais on a appris par des documents qui nous sont parvenus via les États-Unis qu'en réalité, avant même que les États-Unis demandent l'extradition, il y avait un dialogue entre le gouvernement belge, en tout cas une adresse mail à juste.fgov.be, et les États-Unis pour aider à rédiger la demande d'extradition américaine. Et ça, c'est tout à fait étrange, puisque normalement, quand un pays demande l'extradition, il sait pourquoi il veut faire extrader la personne. Et si on a la Belgique qui va l'aider, tout en sachant que le parquet fédéral avait dit « Attention, attention, ne parlez pas de Kleinebrügel ».
Baudouin Loos, pourquoi est-ce que les États-Unis veulent faire extrader Nizar Trabelsi ? Quelque part, il est jugé. En Belgique, il a été jugé. Pourquoi est-ce qu'ils veulent qu'il vienne sur le sol américain ?
Oui, je crois qu'on l'a déjà dit. En fait, le désir de vengeance des États-Unis après les attentats de 2001 est inextinguible. En fait, le traumatisme, on ne peut pas imaginer, je crois, ici en Europe, le traumatisme causé par ces attentats de 2001 aux États-Unis, sur leur sol. Bon, ça ne s'était jamais produit dans l'histoire. Il y avait bien eu Pearl Harbor en 1941, mais c'était en plein Pacifique et ça attaquait des militaires. Ici, le terrorisme islamiste s'attaque à vraiment le centre même des États-Unis, le cœur, Washington et New York. Et il y a 3000 morts. C'est un traumatisme incroyable. Donc, c'est un désir de vengeance. On voit d'ailleurs ce qu'ils ont fait pendant une vingtaine d'années à Guantanamo, qui n'est pas d'ailleurs tout à fait terminé, où on sort aussi totalement du droit. Et tout ça pour ce désir de vengeance et d'exemplarité, probablement, qu'ils veulent montrer au monde ce qu'il arrivera à ceux qui s'attaquent aux États-Unis.
Mais pourquoi, Dounia Alamat, sur quelle base est-ce qu'ils veulent juger Nizar Trabelsi ? Pour quel délit ?
Alors, ils veulent le juger aux États-Unis pour les faits pour lesquels il a déjà été condamné. Ici, ça c'est sûr. Comme l'a dit sa compagne, il a refusé de livrer le nom de ses complices.
Et on est sûr qu'ils existent, ces complices ?
C'est-à-dire qu'il a dû obtenir des informations sur cette base militaire via certaines personnes. Et les États-Unis, le FBI est venu l'interroger quand il était détenu ici en Belgique et on lui a clairement dit « Tu ne nous donnes pas les informations, tu ne revois plus jamais la lumière du jour. » Et c'est pour ça qu'il a été extradé en violation de la loi et c'est ce qu'il est en train de vivre pour l'instant aux États-Unis.
La première, l'histoire continue. Bertrand N. Hélène Maquet.
On évoque toujours le cas de Nizar Trabelsi. On en vient à la situation actuelle. Dounia Alamat, vous êtes donc son avocate. Aujourd'hui, Nizar Trabelsi se trouve en prison aux États-Unis. Quelles sont ses conditions de détention ?
Alors, Nizar Trabelsi, qui subissait déjà un traumatisme de par son isolement ici en Belgique, est maintenant à l'isolement sensoriel total aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle la torture blanche. On sait depuis les années 1970 qu'après 15 jours de ce régime de détention, la personne commence à perdre ses habiletés. Et M. Trabelsi, ça fait 9 ans qu'il est détenu dans une pièce d'approximativement 8 mètres carrés. Alors nous, on a vécu le Covid d'une manière difficile, hein, de pouvoir d'être privé de nos contacts et de l'air pur. Lui, ça fait 9 ans qu'il est dans une pièce de 8 mètres carrés. La lumière est 24 heures sur 24 allumée. Il n'a pas d'accès à la lumière du jour. Et tous ses déplacements se font dans des conditions assez humiliantes ou difficiles, en tout cas, puisqu'il doit se mettre à genoux, il doit abaisser la tête sur le sol, on lui met des menottes derrière le dos et il refuse du coup certains déplacements tellement c'est contraignant et c'est humiliant. Il n'a de contact téléphonique qu'avec les enfants de sa compagne. Il ne peut plus parler à sa compagne depuis maintenant 4 ans. Et nous avons des contacts épistolaires avec lui. Mais ça veut dire que lui, les contacts humains qu'il a, c'est uniquement des contacts avec ses avocats, qui ne sont pas très fréquents. On ne peut pas aller voir tous les jours nos clients en prison. Et avec les gardiens de prison. Et les gardiens de prison n'aiment pas M. Trabelsi, c'est quelque chose qui est évident. Certains sont d'anciens GI. Et donc, quand on a cette étiquette terroriste, quand on a commis les faits qu'il a avoué avoir commis, on est détesté.
Et ça va durer combien de temps ? Parce que là, ça fait 8 ans, mais il n'y a pas. Finalement, vu qu'il n'a pas été jugé aux États-Unis, On imagine que c'est sans limite.
Alors, lui, il risque une peine de prison à perpétuité incompressible. Et donc, en 2019, son procès était programmé quand nous avons obtenu ici en Belgique un arrêt de la Cour d'appel qui a rappelé au ministre de la Justice qu'il faut quand même dire aux États-Unis, attention, il a été extradé, mais pas pour les faits de Kleinobrügel. Et à partir de ce moment-là, évidemment, son procès aux États-Unis a ralenti puisqu'il a voulu faire valoir ce principe non bis in idem.
On n'est pas jugé deux fois pour le même
fait. Voilà, pour les mêmes faits. C'est un principe d'équité classique qui est compris dans la Convention bilatérale d'extradition avec les États-Unis.
Est-ce que Baudouin Loz, ce que Dounia Alamat décrit ici comme condition de détention, c'est finalement ce que Nizar Trabelsi craignait au moment où il a quitté la Belgique ?
Très exactement. Évidemment, comme tout le monde, il savait ce qui s'était passé ou ce qui se passait à Guantanamo et qu'il était évident que le même type de traitement allait lui être réservé. C'est ce qui s'est produit. Et il faut bien comprendre que sa santé mentale, physique évidemment, mais mentale aussi, je pense, est ébranlée pour l'instant d'une manière assez grave.
Et elle est dénoncée par les Nations Unies, par les experts des Nations Unies, qui ont interrogé tant les États-Unis que la Belgique.
Alors, Dounia Alamat, vous disiez, on ne peut pas être jugé deux fois sur les mêmes faits. C'est encore ça qu'il faut sans doute éclaircir. Pourquoi est-ce qu'il est alors poursuivi aux États-Unis, puisqu'il a été jugé pour ses faits, pour avoir planifié un attentat sur la base américaine à Kleinobrügel, il a été jugé en Belgique. C'est quoi d'autre alors qu'on lui reproche ?
Alors, il n'y a rien d'autre. Mais c'est là où je reviens sur l'entente illicite entre la Belgique et les États-Unis. Il n'y avait rien d'autre dans son dossier. C'est-à-dire qu'il a accusé aux États-Unis d'avoir comploté pour tuer des Américains en dehors du sol des États-Unis. Mais la seule cible qui est visée, c'est Kleinobrügel. Les seules armes qui sont visées, c'est celles qui ont été retrouvées en perquisition en Belgique. Les seules preuves qui sont avancées, c'est celles qui proviennent du dossier belge. Les seuls témoins les plus importants, c'est les témoins belges. Mais ce qui se passe, c'est que dans le
processus...
Parce
qu'il y a des témoins belges qui devraient être appelés à la barre aux États-Unis.
Ah, ils sont absolument essentiels pour l'accusation américaine, puisque sans eux, la procédure est plutôt orale aux États-Unis, et sans eux, il n'y a pas de dossier contre M. Trabelsi.
Et ces fameux témoins belges, la Cour d'appel, dans son dernier arrêt du 12 septembre de cette année, leur demande de ne pas aller aux États-Unis parce qu'ils participeraient à une autre violation du droit belge.
Ça... Ah, donc c'est vraiment bloqué, quoi. Pour l'instant, on est dans une situation un petit peu inextricable, si j'ai l'impression. Dounia Alamat.
Il y a une solution très très simple à ce dossier en fait. Et la solution toute simple, c'est que le ministre de la Justice écrive en disant « c'est vrai, l'extradition a été refusée pour les faits déjà jugés ici ». C'est tout. À partir de ce moment-là...
Si on fait ça ?
Ah, si on fait ça, aux États-Unis. Parce qu'en réalité, M. Trabelsi n'arrive pas à faire valoir le principe non bis in idem aux États-Unis, parce que les Américains disent ce que disent les juridictions belges n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est ce que dit le ministre. Et le ministre a menti.
Quel ministre ?
Alors, il y a eu quatre ministres qui sont intervenus.
Les ministres belges.
Les ministres belges de la justice, particulièrement le ministre Hiens, qui a écrit une note diplomatique en disant, finalement, il n'y a eu aucune restriction dans l'extradition de M. Trabelsi, alors que les choses sont claires et nettes, l'extradition a été refusée pour l'effet de Kleinobrügel.
Ça veut dire que les États-Unis estiment que ce qui vaut, c'est une décision du pouvoir exécutif belge, et ce que vous faites valoir comme avocate de Nizar Trabelsi, c'est non, il a été jugé par le pouvoir judiciaire, et donc cette décision-là doit être valide.
En réalité, l'arrêté ministériel d'extradition vise bien la décision judiciaire. Donc, il n'a jamais été question avant son extradition qu'il puisse être jugé pour les faits de Kleinobrügel. Tout le monde était très clair là-dessus. Sauf que on voit que par la suite, on essaye de diminuer cette garantie judiciaire définitive qui a été accordée à M. Trabelsi.
Baudouin Loz, la solution à cette affaire, ou la sortie de crise, j'ai envie de dire, sur cette affaire, ou d'instabilité dans laquelle se trouve Nizar Trabelsi, c'est une décision politique. C'est le ministre de la Justice en Belgique qui devrait écrire aux autorités américaines, dire « il a déjà été jugé pour ces faits-là, donc... » l'extradition n'est pas valide ou pas valable, c'est ça qu'il faudrait faire.
Exactement, et c'est-à-dire qu'il faudrait reconnaître que depuis 2013, le gouvernement belge s'est mis dans son tort du point de vue juridique dans cette affaire. Et il y a eu quatre ministres successifs de la justice. Celle qui a décidé de l'extradition, Annemie Turtelboom, je crois que Maggy de Blok n'avait pas eu vraiment... affaire à ce dossier. Puis il y a eu Koen Gaens qui, lui, est allé quand même très loin, puisque
une décision de la Cour d'appel lui demandait de signifier aux États-Unis que voilà, l'extradition était illégale. Et donc, lui, il l'a peut-être fait, mais il a accompagné ça d'une note diplomatique parallèle en disant « ne vous en faites pas, c'est ce que le ministre dit qui est pertinent en Belgique ». Ce qui est une aberration et faux. Et bon, vraiment, c'est incompréhensible.
Mais donc, imaginons que ça se passe, qu'un nouveau ministre de la Justice, ou l'actuel ministre de la Justice, Vincent Van Kinkelborn, bon, qui est du même parti qu'Annemie Turtelbaum, mais je ne sais pas si ça joue beaucoup dans cette affaire, mais face à cette action, est-ce que les États-Unis accepteraient pour autant de revenir sur leur décision et de faire revenir Nizar Trabelsi en Belgique, Dounia Alamat?
Mais là, c'est ce que les États-Unis, les juges américains nous disent depuis un certain nombre d'années. Si le ministre de la Justice nous confirme que ce refus d'extradition décidé par les juges est valide et que c'est bien, et que ça a limité le spectre de l'extradition, parce que finalement, on avait dit à l'époque aux juges belges, on veut le juger pour toute une série de choses. Et les juges belges avaient dit, ok, mais pas pour Kleine Brogel. Mmh. Et donc, il suffit de rappeler ça.
Mais aujourd'hui, est-ce que quelque part, ça arrangerait les Américains qu'on dise mais finalement, cette extradition, elle n'était pas valide et renvoyez-nous Nizar Trabelsi?
Alors, je pense que les États-Unis auraient été embarrassés s'il n'y avait pas de porte de sortie pour se débarrasser de Nizar Trabelsi, parce que finalement, c'est ça qui s'est passé. La Belgique voulait se débarrasser de Nizar Trabelsi, et puis maintenant, s'il ne peut pas être condamné aux États-Unis, qu'est-ce qu'on va en faire? Mais maintenant, nous avons cet arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles qui dit, eh bien, vous devez demander qu'il revienne, et donc il y a une solution toute trouvée. Rappelons qu'il ne peut pas être jugé deux fois pour les mêmes faits, et puis demandons à ce qu'il puisse revenir ici en Belgique. Et puis se posera peut-être la question du séjour, mais c'est tout à fait indépendant.
Oui,
mais
est-ce qu'on va rappeler qu'il n'est pas belge, Tunisien.
Tout à fait.
Mais est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que du côté américain, on pourrait accéder à cette demande?
À partir du moment où ils ne peuvent plus le poursuivre parce qu'il n'y a plus de dossier, qu'il n'y a pas de témoin belge, bien sûr qu'ils vont vouloir s'en débarrasser. Et il est impossible de l'extrader vers la Tunisie parce qu'il risque aussi des traitements contraires à l'article 3 de la Convention.
Alors, Baudouin Loz, dans toute cette histoire, on perçoit à quel point la barrière entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif est poreuse. Est-ce qu'il y a un peu un mélange des genres malsain dans cette histoire ?
Oui, en tout cas, moi je pense que ceux qui se sont penchés sur cette affaire ne peuvent pas manquer de s'indigner du fait que, si vous voulez, le gouvernement belge commet des violations du droit belge, sciemment, parce que je veux dire, le gouvernement belge n'est quand même pas naïf. Et il s'agit même du ministère de la Justice, qui a été condamné 5 fois par des juges belges, donc de son propre ministère. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire.
Condamné à des astreintes aussi. Hein.
Oui, et on ne voit rien venir au niveau politique, comme s'il y avait une raison d'État supérieure, mais qu'on ne nous explique pas, qui serait là derrière. Et donc, moi, je reste complètement sidéré dans cette affaire.
Oui. Sorte d'héritage, comme ça, de ce qui s'est passé il y a 20 ans, de cet état dans lequel était le monde au lendemain du 11 septembre, et qu'aujourd'hui, sur lequel aujourd'hui on ne parvient pas à faire machine arrière.
Une sorte d'état d'exception, comme ça.
Oui, et de cette alliance indéfectible que nous avons avec les États-Unis, qui est un peu le protecteur de l'Occident, comme on le voit encore maintenant avec la guerre en Ukraine et les valeurs, etc. Mais enfin, bon, là, les valeurs de droits de l'homme, je suis désolé, mais elles sont quand même vraiment foulées aux pieds.
Mais vous avez dit raison d'État, Baudouin Loz, tout à l'heure, hein, ce qui pourrait expliquer qu'on outrepasse, en fait, voilà, hein, des jugements, vous en avez rappelé, il y en a eu 5 qui contraignent l'État belge. Dounia Alamat, c'est vrai qu'on est plutôt habitué à ce qu'en France, la raison d'État soit invoquée comme ça pour ce qu'on appelle alors des affaires d'État, hein, où l'exécutif va trop loin. En Belgique, on est beaucoup moins habitué à ce genre de choses. Mais voilà un cas particulier de ce qu'on pourrait appeler une affaire d'État. Vous utilisez ce mot-là, vous ?
Mais c'est vraiment déplorable parce qu'on essaye de faire valoir les valeurs démocratiques. Parmi ces valeurs, il y a l'état de droit. Dans un état de droit, il y a différents pouvoirs. Il faut des contre-pouvoirs. Il faut pouvoir garantir les droits fondamentaux des individus. Le judiciaire est là pour là. Dans les procès que nous avons eus contre l'exécutif belge, l'exécutif était une partie au procès. Il a eu l'opportunité de se défendre. Il a perdu à chaque fois. Et malgré ça, il continue à violer des décisions judiciaires qui sont définitives depuis 2009. et on est en 2022. Alors, il y a clairement eu une entente avec la gravité de ce qui s'était passé en 2001 entre nos gouvernements, mais on est en 2022 et on aimerait quand même bien un peu de retour à la raison dans cette guerre contre le terrorisme qui a vraiment fait des ravages au niveau des droits fondamentaux.
Qu'est-ce que vous espérez aujourd'hui pour Nizar Trabelsi ?
Moi, j'espère vraiment que notre gouvernement va revenir à la raison et va adopter une mesure qui est toute simple, qui est celle de respecter les décisions judiciaires définitives belges et qui va permettre du coup à M. Trabelsi de sortir de l'enfer dans lequel il est depuis 9 ans. C'est un homme qui est brisé, il a payé, il a lourdement payé pour les faits qu'il a commis et maintenant je pense que ça suffit.
Baudouin Loz, vous avez eu une longue carrière de journaliste. Cette affaire-là, cette affaire Trabelsi, elle a quelque chose de particulier en Belgique ?
Oui, parce qu'on l'a déjà dit plusieurs fois, il n'y a pas beaucoup d'exemples, je n'en connais pas de prime abord, où le pouvoir exécutif se moque de ce que fait le pouvoir judiciaire et cela dans une affaire de terrorisme international en effet très importante, mais pour laquelle le principal suspect a en effet purgé sa peine, et plus que sa peine, presque le double. Et c'est un homme brisé, comme le disait Maître Alamate, et je pense que pour cette personne, les choses ont assez duré.
Merci beaucoup Dounia Alamate, vous êtes, je le rappelle, l'avocate de Nizar Trabelsi, d'être venue dans notre studio pour refaire le fil de toute cette histoire. Merci aussi Baudouin Loz, journaliste au Soir, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Raconter le passé pour éclairer le présent, c'est ce qu'on fait dans l'Histoire continue.
Avec les archives de la SONUMA, une émission réalisée par Jonathan Remy.